Seigneur, béni soit ton nom. Voilà, nous ouvrions la parole du Seigneur dans les psaumes et dans les prochains temps, Dieu voulant, nous nous attacherons spécialement à certains passages qui sont primordiaux pour la prière. Alors bon, c'est une sélection que j'ai faite, elle n'est pas infaillible cette sélection. Il y a certainement d'autres passages, bien d'autres passages qui peuvent nous parler, mais... Voilà, ce sont des passages dans lesquels il est question de prière, dans lesquels il est question aussi de la façon de le faire, dans lesquels il est question d'exaucement, évidemment, et des conditions dans lesquelles l'exaucement est accordé. Voilà, donc ce sont ces passages de ce genre que nous pourrons voir aujourd'hui, et puis Dieu voulant, dans d'autres réunions de prière. Donc, nous commençons par le chapitre 3, le psaume 3 plutôt, verset 4, et là nous lisons: mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Nous relisons. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Vous avez vu cette merveilleuse promesse qui est contenue là dans ce verset 5. Il me répond de sa montagne sainte. Promesse de réponse quand on crie à lui. Lorsque vous voyez le contexte précédent de ce psaume, les versets qui précèdent, depuis le début, les questions de ses nombreux ennemis, ça veut dire que la situation n'était pas facile. Et comment fait-il pour avoir cette assurance ? L'assurance, donc, dont il nous donne la preuve encore, d'ailleurs, dans la suite du psaume. Il y a sept choses qu'on peut relever, simplement dans ces versets qu'on vient de voir. Déjà, il s'adresse à Dieu comme à l'Éternel. L'Éternel, par définition, eh bien, il ne change pas. Il ne change pas, c'est-à-dire qu'il est toujours le même, et il reste toujours le même, pour agir, pour sauver, pour secourir et pour délivrer. Amen. Donc, il s'adresse à Dieu comme à l'Éternel. Ensuite, une deuxième chose, c'est qu'il prend l'Éternel comme son bouclier. Un bouclier, c'est une protection portative et efficace, donc qu'il a toujours avec lui, et qui lui permet, comme dit l'apôtre Paul, d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ensuite, remarquez qu'il appelle l'Éternel aussi sa gloire. Ça veut dire qu'il ne veut pas se glorifier lui-même, il ne veut se glorifier qu'en l'Éternel. Il veut lui rendre gloire et que tout en lui glorifie le Seigneur. Et c'est de cette manière aussi, est-il marqué, que l'Éternel relève sa tête. Ça veut dire qu'il n'a plus marché la tête baissée, sous le poids des fardeaux, des soucis. Ça vous souvenez-vous comment Jésus a délivré la femme courbée que Satan tenait liée depuis 18 ans. Et c'est ainsi aussi que le Seigneur nous libère des fardeaux pour nous faire marcher la tête levée. Alléluia. Il est marqué, redressez-vous, relevez votre tête, parce que votre délivrance approche. Amen. Et puis il est marqué aussi qu'il crie à l'Éternel. Vous savez, crier à l'Éternel, ça exprime aussi sa foi. Mais en même temps, ça exprime l'intensité de son désir, l'intensité de son besoin, ce dont il est conscient. Donc, lorsqu'il crie, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'il veut. C'est vraiment une chose qu'il demande et donc là, ça veut dire qu'il est prêt vraiment à lutter, il est prêt à combattre pour avoir cette chose-là. Et donc ça aussi, quand on crie à l'Éternel, qu'on le fait avec opiniâtreté, avec persistance, c'est également un élément majeur. Et puis que voyez-vous encore ? Eh bien, c'est de sa voix qu'il crie à l'Éternel. Ça peut paraître évident, et pourtant... Parce que c'est vrai qu'il faut prier du cœur, nous en sommes bien d'accord. Il faut que notre esprit et notre âme soient pleinement participantes à la prière. Mais la prière a aussi besoin d'être formulée. Elle a aussi besoin d'être proclamée. Elle a besoin d'être partagée. Et si Dieu nous a donné la parole, s'il nous a donné le souffle, s'il nous a donné la voix, le langage, c'est aussi pour cela. En particulier pour cela, ce soir aussi. Donc voilà, et puis une septième chose enfin, il ne perd jamais de vue l'élévation et la sainteté de Dieu, de sanctification, de mise à part pour son Seigneur, pour son service et pour sa gloire, c'est vrai. En même temps, vous voyez comment il veut élever son âme, Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen. Vous pouvez voir ainsi les caractères de cette bonne disposition de prière qui est décrite dans ce passage et la certitude de l'exaucement que Dieu lui accorde en réponse. Hein. Donc Dieu lui donne de cette manière-là et vous voyez que c'est à ce moment-là qu'il y a l'assurance de la foi et c'est vrai que tout ce que nous demanderons avec foi dans la prière, Dieu nous l'accordera. Amen. Un autre texte dans le psaume 4 maintenant, au verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Et là encore, le contexte du psaume nous montre bien que David n'était pas dans une situation de tout repos. Il est question de l'incompréhension et de l'incrédulité dont il est entouré, de pécheurs rebelles et d'hostilité qui constituent son environnement, de personnes insatisfaites, plongées dans le matérialisme, et je suis frappé de voir les ressemblances avec notre société et notre situation actuelle où nous pouvons nous trouver. Et au milieu de tout cela, Dieu agit. Au milieu de tout cela, voici ce que Dieu fait. Dieu se choisit un homme ou une femme. Je choisis un être humain, il le choisit au milieu de tous les autres. Il le choisit de façon personnelle, un homme, sur un critère, et ce critère, c'est celui de la piété. En fait, remarquez bien, Dieu, c'est quelqu'un qui fait du un à un. Du un à un, Dieu est un Dieu personnel. Il s'occupe de chaque croyant de façon individuelle. Bien sûr, il ne choisit pas qu'un. Mais ça veut dire que chaque fois qu'il en trouve un ou une, un homme ou une femme pieux ou pieuse, il s'en occupe de manière spéciale. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que la piété est utile à tout. Elle a les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Et la manière particulière dont il s'occupe d'eux, c'est quoi ? Mais c'est qu'il entend leur prière, est-il marqué là. Il entend lorsqu'ils vont crier à lui. Donc, ça veut dire que cette personne a l'assurance d'être entendue par Dieu. Elle a un accès particulier, un accès spécial auprès du Seigneur. Et quand Dieu nous entend, mes amis, on peut être tranquille qu'il va s'occuper de nous. Hein. S'il y a un problème, s'il y a un danger, s'il y a un coup dur, Dieu ne va pas rester sans réagir. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, il ne va pas négliger ceux qu'il a choisis, mais il va s'occuper de la meilleure façon. Quelle précieuse assurance et quel grand encouragement. Amen. Et puis je poursuis, et maintenant je passe au psaume 5 et au verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Je reprends. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Et là encore, l'entourage n'est pas celui d'un contexte bucolique de paix et de sérénité. Non, là encore, vous avez tout un entourage de méchants, d'impies à l'œuvre, voilà, quand on lit ce psaume. Et malgré ces difficultés, vous avez ces excellentes promesses, ces merveilleuses assurances, je dirais même au cœur de ces difficultés. Le secret, hein, le secret contenu dans le verset 4, eh bien, c'est ce qui nous explique comment la victoire peut être obtenue, comment les expériences, les exaucements aux prières peuvent être accordés. C'est que dès le matin, c'est dit deux fois, vous l'avez vu, dès le matin, dès le réveil, il se tourne vers son Dieu. Dès le matin, avant toute autre chose, il fait monter sa prière de cœur vers le Seigneur. Hein. Dès le matin, il élève à voix haute une prière d'abondance. Hein, les mots qui lui viennent au cœur. Hein, donc, dès le réveil, eh bien, sa première pensée, sa première proclamation d'affection, c'est pour Dieu. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Et non seulement il prie, est-il marqué, mais il tourne vers le Seigneur et il regarde. Vous avez vu ? C'est marqué « il regarde ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il veut la vision du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il veut se pénétrer dès le matin avant d'avoir vu quoi ou qui que ce soit d'autre de la révélation du Très-Haut. Ça veut dire qu'en ouvrant les yeux, il va regarder dans la parole de Dieu, il va regarder l'Écriture sainte et Dieu se révèle dans sa parole. Dieu se révèle par son esprit. Et avec les yeux de la foi, il va regarder et il va voir le Seigneur sur son trône, dans sa toute-puissance, dans sa sagesse, dans l'expression de sa volonté, comme les serviteurs ont les yeux fixés sur la main de leur maître, ainsi donc va-t-il être attentif au désir du Seigneur. Et je dirais que cette vision, une vision de Dieu par la foi, que le Seigneur va préciser d'ailleurs, hein, que le Seigneur a précisé de jour en jour, ça va lui donner la force, ça va lui donner l'assurance, ça va lui donner la joie, ça va lui donner la paix et la foi pour mener le combat et l'œuvre du jour. Hein. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine, a dit le Seigneur. Hein. Le combat et l'œuvre du jour, et quel admirable secret du soutien divin. Amen. J'avance encore un peu maintenant, je passe toujours dans le chapitre 5, mais plutôt vers la conclusion, chapitre 5 au verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et nous sommes toujours là dans ce psaume 5, et rappelons que son entourage, l'entourage du psalmiste, est loin d'être favorable à la piété et à la foi, mais ça n'empêche pas Dieu de bénir. Hein, vous le voyez, c'est marqué. Ça n'empêche pas Dieu de protéger puissamment le fidèle, je dirais même bien au contraire, parce que c'est justement là que sa puissance de protection est nécessaire, salutaire, et c'est là qu'elle va être le mieux mise en valeur, par contraste justement avec l'entourage qui est compliqué. Et regardez bien, il est marqué que c'est le juste que Dieu bénit, le juste. Alors qu'est-ce qu'un juste ? Rappelons-le, pour l'Écriture, un juste, ce n'est pas ce qui est trop souvent considéré comme juste pour le monde. Pas exactement. C'est plus précisément, un juste, c'est quelqu'un qui, à un moment, s'est tourné vers le Seigneur dans la repentance, l'humilité et la foi. Hein. Donc, rempli de reconnaissance envers Christ à cause de sa mort, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Amen. Et c'est ainsi que c'est injuste que nous sommes tous, chacun, tous, eh bien c'est ainsi que nous sommes rendus justes. Et c'est ainsi que nous sommes rendus capables, par la puissance du Saint-Esprit, de marcher désormais dans la voie de la justice et de la piété, telle qu'elle nous est décrite d'ailleurs depuis le début du psaume, que nous ne lisons pas malgré tout maintenant. Et concernant cette bénédiction, vous l'avez vu, il est spécialement insisté sur la grâce. La grâce du Seigneur à notre égard. Combien elle est précieuse, cette grâce. Et Dieu use, heureusement pour nous, abondamment de grâce à notre égard. Tout par grâce peut s'écrier avec joie le croyant, en proclamant les bontés imméritées de Dieu envers lui et en assiégeant le trône de la grâce afin de trouver miséricorde et grâce et d'être ainsi secouru dans nos besoins. Amen. Et vous avez vu que là aussi, l'insistance est mise sur l'aspect protecteur de cette grâce. Nous retrouvons l'image du bouclier dont nous avons déjà parlé précédemment. Donc. Et enfin, bien, nous revenons à ce petit mot « car » qui est au début de notre texte, hein, qui nous rattache donc au verset précédent. Et celui-ci parlait de la joie de ceux qui se confient dans le Seigneur, de l'allégresse de ceux qui aiment son nom. Et donc, de leur esprit de louange, de gratitude et de remerciement. Donc, c'est dans cette attitude que nous serons pleinement bénéficiaires de cette bénédiction et de cette grâce de Dieu. Nous avons pu parler dans ces quelques mots. Amen. Notre quatrième texte d'aujourd'hui se trouve dans le psaume 6, au verset 9 et 10. « Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » Je relis. « Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Et là, encore une fois, il est toujours important de remettre les choses dans leur contexte. On voit que le contenu de ce psaume, c'est celui vraiment qui exprime une extrême difficulté. Et je dirais même, les problèmes s'amoncellent les uns sur les autres, c'est évident. C'est sur des situations qui peuvent nous arriver dans les moments les plus difficiles de l'existence. Hein. Et là, on voit, par exemple, le manque de force au verset 3, la maladie dans ce même verset, le trouble de l'âme au verset 4. Et ça dure depuis un moment toujours, parce qu'il m'a dit jusqu'à quand, dans le verset 4. Vous avez, hein, oui, le risque de mourir qui est envisagé sérieusement dans ce même même verset 6, et puis vous avez aussi des gémissements, des larmes, des pleurs, des chagrins dans les versets 7 et 8, et puis vous avez, pour faire bonne mesure, si j'ose dire, des persécuteurs, des ennemis. Alors, soyons persuadés que le Seigneur n'est pas indifférent, dirais-je même, à la moindre de nos larmes. Il faut savoir cela. Et le passage insiste sur le fait que c'est justement quand ces prières sont accompagnées de supplications et de larmes tournées vers le Seigneur qu'elles ont cette efficacité toute particulière. Et bien sûr, ceci nous fait penser à d'autres passages. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Ou encore, le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement, on peut traduire aussi subitement, soudainement, justice. Voilà, quelle assurance là, qui rejoint encore donc celle de notre psaume et qui insiste sur le fait que l'Éternel entend, que l'Éternel exauce, qu'il accueille, et que cette conviction que la prière est exaucée, bien vous avez remarqué qu'elle est exprimée trois fois, hein, cette triple phrase qui est là, et que nous puissions aussi nous saisir par la foi d'une telle assurance. Amen. J'avance encore, et voici mon cinquième passage, dans le chapitre 9 au verset 11. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Alléluia. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Et là, le contexte du psaume nous parle de quoi? Il nous parle du bouleversement qu'il y a dans le monde, en particulier entre nations, hein, avec les injustices, les troubles qui en résultent. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, peuvent en être désemparés et se demander où est Dieu, ce qu'il fait. Peuvent aussi être dans la crainte face aux oppressions, face aux détresses qui résultent de tout cela. Mais quand on découvre Dieu, quand on écoute Dieu, qu'on le cherche et qu'on le trouve, voilà qu'on réalise que Dieu est celui qui tient toutes choses sous son contrôle et que toutes sont dirigées, j'irais, vers les grands buts qu'il a fixés, vers les grands accomplissements des prophéties qu'il a inspirées à ses serviteurs et vers le grand jugement final qui rendra à chacun ce qui lui sera dû. Donc voilà. Donc, et c'est pour ça, comme le dit notre verset, il est si impatient de connaître son nom. Hein. Connaître Dieu, ça veut dire quoi connaître Dieu? Ça veut dire connaître la pensée du Seigneur, connaître les caractères de Dieu, connaître la volonté de Dieu, je veux dire sa volonté générale, et puis aussi sa volonté particulière pour notre vie, parce que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Hein. Pourquoi est-ce que nous sommes différents les uns des autres? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous des clones? Dieu aurait pu nous faire tous des clones. Il nous a fait tous différents. C'est parce qu'il a un plan différent pour chacun. Voilà, il faut le fond être convaincu. Et puis connaître son nom, je veux dire, le connaître, non pas seulement comme cela, livresquement, non, mais le connaître de façon expérimentale. Hein, en faisant l'expérience des choses admirables qu'ils sont accordées dans ce nom-là. Connaître le Seigneur personnellement, parce qu'on a fait une rencontre personnelle et salutaire avec lui, et c'est ça qui nous permet d'avoir ensuite une communion suivie avec lui jour par jour, communion d'ailleurs qui est appelée à s'approfondir et à s'accroître. Amen. Donc, mais connaître son nom ainsi, évidemment, ne vient pas tout seul. Hein. Et c'est pour cela qu'il est marqué qu'il se révèle à ceux qui le cherchent. L'apôtre Paul en a expliqué le principe dans le livre des Actes des Apôtres, dans son discours aux Athéniens. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « il », c'est-à-dire Dieu, « il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Ça, c'est le principe. Hein. Dieu n'est pas loin de chacun de nous, il veut qu'on le cherche, et il veut qu'on le cherche en tâtonnant. Pourquoi en tâtonnant? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça nous humilie. Hein. Ça nous humilie, ça nous fait du bien, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Déjà, ça nous humilie, ça nous rend conscient, ça nous garde conscient de nos limites, et en même temps, bien sûr, ça nous garde aussi bien ouverts et bien disponibles pour lui. Ça nous rend conscient que nos pensées ne sont pas ses pensées. que nos voix ne sont pas ses voix, que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voix au-dessus de nos voix. Ça nous rend conscients de cela. Et puis, évidemment, ça, c'est quelque chose qui, après, bien, lorsqu'il nous révèle ce qu'il veut nous révéler de lui, eh bien, ça nous rend d'autant plus reconnaissants. Et ça nous fait d'autant mieux le glorifier. Amen. Et c'est précisément ainsi qu'on va se confier en lui pleinement et qu'on est assuré que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il va le faire aucunement, nullement. Et donc, c'est effectivement là une promesse absolue qui ne souffre vraiment aucune exception. Là encore, quel encouragement puissant à le rechercher de plus en plus pour le connaître de mieux en mieux, s'attacher de plus en plus à lui. Amen. Notre avant-dernier texte pour aujourd'hui, c'est dans le psaume 10 et au verset 17. « Tu entends les cœurs de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. » Tu entends les cœurs de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu affermis leur cœur et tu prêtes l'oreille. Et le sujet principal de l'ensemble du psaume, avant d'en arriver à notre verset qui fait partie de la conclusion, c'est celui de ce mystère. Le mystère du succès du méchant sur la terre. Hein, donc, dans ces mauvaises entreprises, tellement souvent, j'irais presque d'une manière générale, les méchants ont souvent du succès dans leurs entreprises. Les injustes, les rapaces, ceux qui marchent sur les autres, ceux qui, les loups qui dévorent, hein, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Hein, donc, voilà. Et c'est vrai que les gens peuvent vraiment se poser des questions à ce niveau-là et se demander, mais où est Dieu dans tout ça, hein? Mais par contre, il expliquait là que ceux qui croient malgré tout au règne éternel de Dieu et qu'en son temps, Dieu agit, Dieu agira pour établir sa justice. Et donc, c'est d'ailleurs le sujet du verset qui est juste avant le nôtre, hein, c'est-à-dire le verset 16. Eh bien, ceux-là, Dieu les entend. Et non seulement il les entend, mais il entend leurs vœux, est-il marqué. C'est marqué là aussi, tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Qu'est-ce que c'est les vœux ? Des vœux, eh bien, ce sont des décisions, des engagements qu'on prend. Hein, des vœux devant Dieu en particulier, hein, dans ce cas-là, ce sont des résolutions qu'on prend, je pense, pour mieux l'aimer, pour mieux le servir, en tout cas. C'est ça que Dieu considère. Donc, et c'est vrai qu'une période de difficulté, une période de souffrance, c'est souvent un bon moment aussi pour faire des vœux. Attention, là que je parle de faire des vœux, je parle de choses qui ne doivent pas être démesurées. Hein. Il s'agit de choses qui doivent être aussi mises en œuvre sans tarder. Ce n'est pas la peine de faire des vœux pour quelque chose qui doit se faire dans 10 ans. Hein. Ou pas la peine de faire des vœux pour quand on n'aura plus de problèmes. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Mais effectivement, de tels vœux sont entendus du Seigneur, ils sont approuvés par lui et le résultat, est-il marqué, c'est que leur cœur va être affermi. Dieu affermit leur cœur. Et mes amis, l'affermissement du cœur, c'est la clé de la situation. L'affermissement du cœur, c'est la clé de la solution. Hein. C'est la base de l'affermissement de tout le reste. L'Écriture nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et c'est ça la réalité. Hein. L'affermissement de cœur, c'est ce qui permet l'affermissement de la foi. C'est ce qui permet aussi l'affermissement du caractère. C'est ce qui va permettre ensuite aussi en même temps l'affermissement de la santé et de la guérison. C'est ce qui va faire que notre cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Et c'est ainsi que, nous est-il dit, nous pourrons régner dans la vie par Jésus-Christ seul. Et notre citation finit sur le fait que Dieu prête l'oreille. Ça veut dire qu'il est particulièrement attentif. Et c'est vrai que quand quelqu'un a le cœur affermi, eh bien, il s'adresse à Dieu avec l'assurance de la foi. Et ça plaît au Seigneur, évidemment. Hein. Le Seigneur est réjoui par la foi que nous manifestons. Hein. Donc, et c'est cette assurance qui, à ce moment-là, n'est pas de la présomption, mais qui est vraiment une assurance qui vient justement de ce cœur que Dieu a affermi. Et il est marqué là, alors, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Béni soit Dieu, qu'il puisse en être ainsi pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Et enfin, chapitre 10, verset 14, tu regardes, nous sommes toujours dans le psaume 10, mais nous faisons un petit retour en arrière. Donc voilà, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. Faisons ce petit retour en arrière et le voyons immédiatement qu'il y ait l'insistance qui est mise sur le fait, encore une fois, que Dieu n'est pas indifférent au malheur et surtout au malheureux, mais qu'il est au contraire extrêmement concerné et extrêmement préoccupé. La peine, la souffrance le touchent beaucoup. Alors certains vont dire, oui mais alors, si son désir est si grand, pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas plus? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de situations de misère où on a l'impression que Dieu est absent, que Dieu est peu concerné? Eh bien je dirais que là encore, une fois, c'est le problème du pauvre. Le problème du pauvre! Vous savez, on parle souvent du problème du riche. Hein. L'Écriture nous en parle très clairement. Elle nous dit que le problème du riche, c'est l'attachement à ses richesses. C'est qu'il s'attache plus à ses richesses qu'à Dieu. C'est qu'il prétend servir Dieu et Mammon. Et ça, c'est pas possible. Hein. Et par conséquent, est-il marqué, combien il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, quel est le problème du pauvre? Le problème du pauvre, c'est justement souvent celui de son abandon. Mais le problème, c'est pas celui de son abandon entre les mains de Dieu. C'est peut-être plutôt celui de l'abandon, son abandon au désespoir. Hein? Ou bien celui de s'abandonner à la révolte. Parce qu'il y en a qui vont contre les riches, contre Dieu, hein? Contre ce qui paraît une injustice absolument insupportable. Hein? D'autres vont utiliser des expédients, de la malhonnêteté pour essayer de se sortir de leur pauvreté. D'autres vont devenir agressifs, peut-être violents, que sais-je. Hein, donc on voit, d'autres vont en vouloir aux autres. Ou alors ils vont chercher absolument et désespérément des soutiens humains. Hein, donc je ne dis pas qu'il n'est pas interdit de chercher des appuis humains, mais qui est-ce qui va s'abandonner entre les mains de Dieu? Voilà, à grande chose, de voilà. Qui est-ce qui va s'abandonner entre les mains de Dieu? Qui est-ce qui va faire pleinement confiance à Dieu? Qui est-ce qui va se tourner vers le Seigneur et lui dire jour par jour, Seigneur, je crois que tu vas pourvoir à mes besoins aujourd'hui. Je crois que tu vas me secourir maintenant. Hein, donc, et puis, qui est-ce qui va rester ainsi dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude de foi? Voyez-vous, le problème, il est là, hein, bien souvent. Et en vérité, d'ailleurs, nous sommes tous des pauvres, vous savez. Hein. En tout cas, en ce qui concerne les richesses les plus importantes et les plus précieuses, par nature, nous sommes vraiment tous des pauvres, parce que nous sommes pauvres naturellement en foi, et nous sommes pauvres en amour, et nous sommes pauvres en espérance, et puis nous sommes pauvres en reconnaissance, et puis nous sommes pauvres en patience et en support, n'est-il pas vrai? Et nous sommes pauvres en persévérance, et nous sommes pauvres en joie et en paix, et pauvres en bonté, et pauvres en douceur, et pauvres en maîtrise de nous-mêmes, et pauvres en sagesse, et pauvres en discernement. Eh oui, nous sommes pauvres. Nous avons tous besoin de nous abandonner réellement entre les mains de notre Dieu, hein, de lui confier la direction de toutes choses dans nos existences et de lui laisser à lui l'initiative des choix et des décisions. Amen. Parce que c'est ainsi que le Seigneur prendra en main notre cause et ça, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Béni soit son nom. Amen. Et qu'il puisse en être là aussi ainsi pour nous et que nous puissions faire monter vers lui la prière de notre cœur pour lui remettre toutes choses avec une pleine confiance. Amen. Amen. Te remercions Seigneur pour ta grâce et ton amour. Te remercions pour ta parole par laquelle tu veux encore nous soutenir et nous fortifier, par laquelle tu veux encore faire ton œuvre en nous, par laquelle tu veux encore affermir notre foi et notre amour en particulier. Et nous te remercions là encore parce que tu fais de mieux en mieux, de plus en plus de nous, des hommes, des femmes de prière, Seigneur, et qu'ainsi, eh bien, là aussi, eh bien, tu puisses être réjoui et glorifié. Sois béni, mon Seigneur et mon Dieu. Amen, Jésus. Alléluia.